écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Conduite anti-sportive, édition du 23 mars 2023. Gabriel Tremblay à l'animation en ce beau jeudi enneigé, hein, on va dire.
Oui.
Ça neige dehors. Félix-Antoine Audet à ma droite, comment ça va?
Ah, qui va bien, va bien.
Ah, content de l'entendre. Alex Fortin à ma gauche, directeur des sports.
Salut.
C'est toi.
Bonsoir.
Ça va?
Oui, toi?
Bien, ouais.
Hein?
Ouais.
T'es tranquille aujourd'hui?
Concentré sur mon choix de joueur pour la chronique tantôt. Là,
c'est ça.
Ouais, je fais de l'anxiété un peu par rapport à ça.
On finit nos devoirs en retard.
Oui, on est vraiment.
Vous comprendrez en temps et lieu.
Oui, effectivement. Donc, on va parler évidemment de hockey un peu avec la saison qui achève dans la Ligue nationale. Il reste quoi, 10 matchs ou presque. On va parler aussi de basketball parce que le March Madness bat son plein sur les planches d'un peu partout aux États-Unis. Et on va parler un peu de baseball aussi parce que la classique mondiale international vient de se terminer. Mondial international. Je sais pas si c'était bizarre.
World Baseball Classic.
WBC, et c'est pas un championnat de boxe.
Oui, mais c'est drôle comme choix d'acronyme.
Ouais, quand même bizarre.
Mais la personne attitrée au SEO a pas fait son analyse trop tôt.
Référencement douteux.
Ça doit être particulier.
Oui, effectivement. Donc, ce sera un tour d'horizon de quoi? Basket, baseball et hockey. Et commençons ça en musique avec Joe Napoléon avant qu'on commence notre segment. Je trouve ça le fun.
Okay.
Hein? Let's go.
Jesse Maurice tonight. I want the Rocket!
Les garçons, est-ce que Maurice Richard est un de vos joueurs préférés de tous les temps?
Ben si je l'avais vu jouer une fois peut-être là, mais j'ai beau ne pas avoir de cheveux sur la tête, je suis pas si vieux que ça.
Mais les faits saillants de Maurice Richard, les quelques faits saillants là, bon, qui ont été captés, sont quand même déjà impressionnants. Ouais, fait que j'imagine que ça devait être un joueur assez impressionnant à voir en personne.
Vraiment, vraiment. Vous aurez compris que c'est notre segment hockey qui commence, les auditeurs et auditoristes. J'ai proposé hier aux garçons à côté de moi de me nommer leur joueur préféré par position, donc attaquant, défenseur, gardien. Actuel et d'antan.
Et c'est là la belle twist qui a compliqué ma tâche.
Ouais, exactement, parce que ben t'es un fan depuis un certain temps, mais
pas si longtemps que ça.
C'est ça, assez récent.
Considéré époque à l'acte.
Ton ancien défenseur, ça va être Drew Doughty, genre.
Tu sais, c'est pas si loin que ça, là. On n'est pas si loin.
C'est ce qu'on se disait dans l'auto tantôt, alors qu'il joue encore, tu sais, mais.
Ben oui, c'est ça.
Puis moi, personnellement, c'est pas mal un de mes défenseurs préférés.
Ben, je pourrais commencer peut-être avec mes choix d'anciens joueurs.
Ouais, allons-y.
Commencer par la position de gardien de but. Dominique Hašek.
Ah ouais.
Puis j'ai beaucoup de références par rapport aux jeux vidéo parce que à cette époque-là, à NHL 99 et en montant, c'était un des meilleurs gardiens. Puis surtout, il était très spectaculaire à la position de gardien de but. Donc pour un enfant, pour moi, c'est ce qui primait dans un gardien de but, dans un joueur. C'était le côté spectacle. C'est pas le positionnement.
Non, au contraire. Il était complètement excentré à chaque moment, à chaque tir.
Toujours en train de faire des pirouettes.
C'est ça, des roulades.
Extrêmement talentueux.
Oh oui.
Parce que tu ne peux pas être un gardien de but avec ce style-là et ne pas être talentueux, c'est impossible.
J'ai triché un peu avec mon gardien du passé parce que j'ai mis Hašek aussi. Puis je serais même pas semblant de l'avoir regardé jouer dans ses vrais matchs, mais j'ai vu beaucoup de faits saillants, puis c'est le genre de gardien de but, vous allez le voir avec mon choix présent, même si c'est pas pour le joueur qu'il est présentement, mais vous allez voir rendu là. Mais les goalers qui sont spectaculaires, qui sont athlétiques, qui se basent là-dessus, moi j'adore ça regarder jouer, puis de voir ce que Hašek a été capable de faire là, je veux dire, quand il lance son bâton puis il se pitche avec son bloqueur, je peux pas faire autre chose que d'avoir la mâchoire à terre là.
Il y avait un style debout à la base, mais très erratique, qui faisait en sorte que il était toujours mal positionné au final.
Le classique style debout à l'européenne, à la vraiment. Arthur Irbe.
Oui, Arthur Irbe, qui a joué avec les Hurricanes de la Caroline. Tu sais, on s'entend, la Hašek a eu des années de misère aussi à Buffalo, là, fin 90, début 2000.
Ça avait pas été facile.
Il y avait beaucoup de tirs, il y avait beaucoup de chances de se faire valoir et d'être spectaculaire, on s'entend. Il se faisait plomber, là, comme on dit.
Mais c'est souvent là que t'as des gardiens qui sont dans les meilleures situations. Là.
Ah, pareil.
Il y a tellement de gardiens de but qui sont meilleurs quand ils se font plomber.
Ben, exactement.
Que autre chose. On parlait de Bobrovsky tantôt, là, hors d'onde. Bobrovsky, quand il était avec les Blue Jackets, ça a été ses meilleures années. Tu l'as mis avec une bonne équipe en Floride, puis pas grand chose qui se passe. Carey Price, ses meilleures années, c'était celle où le Canadien avait rien là, devant lui. Là. Parce qu'on a déjà entendu parler de la part d'entraîneurs de gardiens de but. T'en as des gardiens comme ça qui ont besoin de beaucoup de tirs pour se mettre dans la zone. T'es tout m'indique que Carey Price, ça devait être un gardien comme ça, parce que dès qu'il recevait 40 tirs, là, c'était la game où il avait donné 0, où il avait donné 1.
Ouais, clairement.
Il en recevait 18, puis il y en avait 3 de rentrée. Il y a des gardiens qui sont comme ça.
On va faire le tour des gardiens tant qu'à ça, parce qu'on parlait de vieux gardiens. J'ai hésité entre deux, et c'est Roberto Luongo, qui est justement un autre qui s'est fait malmener à l'époque des Panthers. Là. D'où des 40-50 shots, c'était fréquent à cette époque-là. Il sentait le caoutchouc pour des semaines et des semaines. Bobby Lou.
Ça a été un petit peu plus erratique à Vancouver.
Difficile.
Surtout après la finale de la Coupe Stanley. Là.
Ouais, là, on sentait que c'était son moment, c'était sa finale pour finalement rentrer bredouille à la maison.
C'était hyper serré, là. On viendra pas non plus. Ils sont pas fait démolir.
C'était une belle finale à la Coupe Stanley.
Vraiment.
Mais par la suite, c'est là que la relation s'est envenimée avec Corey Schneider qui était là. Exact. On essayait de l'échanger. Finalement, on a fini par échanger Corey Schneider. C'était quand même catastrophique comme gestion des gardiens de but.
Ouais. Puis rappelons-le, Roberto Luongo était capitaine des Canucks à l'époque.
Oui.
Et c'était un des seuls gardiens. En fait, je pense que c'est un des seuls gardiens de l'histoire à avoir été capitaine. Puis il portait un C sur son masque en bas. Mm-hmm. Petite tu fais saillant, fait divers, cocasse. Donc, j'hésite entre Roberto Luongo et Ed Belfour. Ed Belfour qui a gagné une Coupe Stanley avec les Stars de Dallas en 99-2000.
Ah, là, tu me rappelles des beaux souvenirs.
Ah, ouais.
En tout cas, le bon vieux Eddie Belfour. Belfour.
Eddie Belfour a eu beaucoup de problèmes hors glace, fin de carrière, problèmes d'alcool, etc. Mais quel gardien. Justement, lui aussi, style debout, mais beaucoup plus calculé et technique que Dominique Hašek. C'était vraiment un très beau gardien à avoir. Très grand aussi, quand même, une bonne carrure. Là. Il était square dans son net, comme
et
on
surtout
dit.
À l'époque, les Stars ont été une équipe dominante plusieurs années avec bon Mike Modano, les Sergei Zubov, les Eddie Belfour. Oh, j'ai envie de jouer à Nintendo 64 à NHL 99.
Tu vois, sans blague, là, Alex, puis c'est pas parce que j'ai vraiment trippé sur les Stars, mais oui, un certain temps, mais dans mes joueurs préférés, c'est Sergei Zubov, le défenseur, puis c'est Mike Modano comme attaquant.
Petit vulgacheur.
Là, j'ai juste entre Mike Modano et Brett Hull. Brett Hull aussi qui a fait la plus beau temps avec les Stars, mais ailier de puissance qui marquait des buts comme... c'était trop facile.
Ouais.
Ouais. Vraiment. Donc voilà. Mon tour est fait. Hein?
On reste dans le passé ou on
attaquant
va on reste
passé?
Dans le passé?
Attaquant okay. du passé.
Attaquant du passé, je l'avais déjà dit dans une ancienne émission, Alex Kovalev. J'avais juste beaucoup apprécié Kovalev lors de son passage à Montréal. La manière qu'il surtout patinait avec la rondelle, ça donnait beaucoup d'espace sur la patinoire, les buts spectaculaires.
Tellement fluide.
On en a pas eu beaucoup non plus des joueurs qui, avec ces caractéristiques-là à Montréal. Non, en tout cas, pas durant les années 2000.
De notre vécu, là?
Non,
pas du tout.
Alors pour moi, c'était extrêmement impressionnant de le voir aller. Puis si je pouvais dire mon défenseur en même temps, Niklas Lidström. Qui était l'ultime défenseur beau à voir aller, tu sais, joli à voir sur la glace, autant défensivement qu'avec la rondelle. Puis c'est un défenseur qui jouait rude mais pas salaud, respecté de ses pairs, capitaine, premier capitaine européen à remporter la Coupe Stanley.
Je pense qu'il l'a fait à quoi, à 4 reprises au final.
Ouais, exactement.
La dynastie des Red Wings qui n'avait pas manqué série pendant un quart de siècle.
C'était assez impressionnant de le voir aller et de garder ce niveau-là aussi longtemps. Mm-hmm. Et encore une fois, NHL 99.
Ouais, tout à fait. Avec Lindra sur le top, hein,
Mis à part mon gardien du passé, là, c'est sûr que le côté gars qui suit le hockey depuis pas si longtemps et qui est évidemment un fan du Canadien ressort surtout à ce moment-là. Là. Je dirais que ça va être correct par la suite. Mais pour défenseur du passé, c'est pas compliqué. C'est le joueur de hockey qui m'a fait vivre le plus d'émotions. Depuis que je regarde le hockey, c'est zéro original, c'est zéro poussé, mais c'est clairement Piqué Subban.
Okay.
C'est sans aucune hésitation. Wow. Je me rappellerai toujours de ce qu'il a dit avant un match 7 contre Boston. Dire, j'ai tellement hâte d'aller là-bas, j'ai tellement hâte d'entendre leur énergie, puis j'ai tellement hâte de tout leur enlever. Puis après ça, les buts en prolongation contre Boston, qui va un jour oublier l'échappée de Piqué Subban qui sort de la boîte de punition pour aller déculoter.
Oh, quel but!
Quelle absolue beauté! Puis avec le contexte aussi, tout ça, c'est
bon. Je suis certain que tu te rappelles encore de l'endroit où tu étais quand tu as vu ce but-là.
Ah, j'étais devant ma télé chez nous, dans mon... Je
me rappelle exactement là où j'étais, là, avec de la famille, puis... C'était
spectaculaire.
Ouais. Vraiment, vraiment impressionnant.
Il a su nous faire vivre ces émotions-là, puis, tu sais, il a eu ses difficultés hors glace, il a eu ses difficultés sur la glace après avoir été changé, je comprends tout ça, sa fin de carrière, peut-être pas celle qu'il souhaitait, mais quel défenseur, honnêtement. Quand tu dis là, que ce genre de joueur-là, là, c'est un sport conservateur, là, le hockey, puis les vieux de la vieille n'aiment pas ça, mais j'étais jeune, j'avais besoin d'une raison pour triper sur le hockey. Halak m'a donné le goût de regarder, Subban m'a donné le goût de rester.
OK.
Quel joueur. Et en attaque, je vais complètement à l'opposé.
Ah ouais.
Je vous dis, honnêtement, il n'y a aucune chance que vous pourriez voir celle-là venir. Mon attaquant du passé préféré, Mathieu MFFN Darche. Mon Dieu que j'aimais ce gars-là quand j'ai commencé à écouter le hockey. Il n'y a aucune raison particulière. J'étais un gars qui trippe underground, underdog, un peu grinder. Puis, OK. Je sais pas pourquoi, mais mon Dieu, la saison, je me rappelle particulièrement la saison d'Arnais, Pacioretty, puis Cole. Puis il y avait Mathieu Darche qui jouait souvent ce deuxième trio avec Plekanec. Puis je trouvais ça donc hot de pouvoir aller. J'ai toujours trippé sur le gars. Puis je trouvais qu'il avait donc une personnalité hot. Ça avait l'air donc d'un bon Jack.
C'est un gars brillant.
Mathieu, faut lui donner.
Un bon comptable.
Un bon comptable. C'est un gars brillant. OK, vous m'avez donné un carton jaune parce que j'ai mis une chanson prématurément dans l'émission. Là, Félix-Antoine Audet a un carton jaune
Mathieu
pour Mathieu Darche. Non, non, non.
He's in the books.
Non. He's in the books
for the rest of the game.
Oh non, je sais que ça fait aucun sens, là. Mais vraiment,
c'est rare, mais c'est moi qui est le joueur discipliné.
Oui, vraiment.
J'ai pas de carton.
Ouais, non, ça. Non.
Reste tranquille.
Reste encore un 45, reste une demi, mon chum.
Non, j'ai vraiment, vraiment adoré Mathieu Darche.
Mais voyons donc, il a joué de 20 minutes en plus, là, tu sais.
Ah, je sais. Ouais. Mais c'est comme la saison où j'ai commencé à embarquer dans le hockey, puis j'aimais donc le voir aller, puis chaque fois qu'il y a eu comme une pause, je m'en rappellerai toujours, il y a eu une pause de comme 5 matchs où il était sur le deuxième trio avec Plekanec, puis il était bon. Il avait marqué comme 3 buts en 5 matchs, puis là, hey, j'étais donc excité, puis j'arrêtais pas de parler de Mathieu Darche. C'était donc le joueur hot pour moi, c'était vraiment particulier. Mais
c'était ton Harvey Pinard du moment.
Alex Belzile.
Alex Belzile.
C'était mon premier Alex Belzile. Il m'a marqué.
Oh! Oh! Ouais.
Merci.
C'est pas qu'on puisse pas enlever les cartons.
Ben moi c'est Pierre-Alexandre Parenteau, mon joueur préféré.
Ben là, ça aurait déjà été un petit peu mieux que Mathieu Darche.
On pourrait s'intéresser aux joueurs actuels.
Oui, tout à fait.
Ben tes joueurs du passé, t'es étudié?
Oui, Zubrov
puis
Sergei Zubrov, quel défenseur. Bon. Oh. Il tombe la renommée justement très récemment. Défenseur offensif comme il s'en fait plus. Là.
Ok.
Oh, non, il était juste sublime à voir aller.
C'était Brett Hull, Mike Modano.
Ouais, Brett Hull, Mike Modano. Tu sais, Mike Modano pour le leadership puis la grandeur de l'homme en soi. Puis il a fini sa carrière à Détroit. Ça, c'est un peu plate quand même. En tout cas, il a pu savourer encore la victoire un peu alors que les Stars étaient en reconstruction. Mais Mike Modano, quel joueur de centre, gagnait tous ses face-offs, toutes ses mises en jeu. C'était sublime. C'était le joueur de centre parfait là, dans les deux côtés de la glace.
Et il a quand même aidé à bâtir une solide franchise à Dallas. C'est une franchise implantée qui, j'imagine, va être là pour les prochaines décennies.
C'est un marché
très solide dans la Ligue nationale de hockey. Au Texas,
en plus,
par surcroît.
Ça a repris succès. Là.
Ouais,
veux-tu,
je pense que les
nous lancer sur les joueurs du présent?
Oui, faisons ça. Je pourrais mentionner mon gardien préféré, comme ça on commencera par par le filet.
Allons-y
vers le haut. Je vais choisir Jonathan Quick. Possible?
Yes!
Ah!
Impossible!
Ben voyons donc!
Jonathan Quick!
Quoi? J'hésitais entre Fleury et Jonathan Quick, deux gardiens qui ont justement eux autres fait la pluie le beau temps avec leurs clubs respectifs. Quick, ça a été plus difficile dans les dernières années parce que justement les Kings sont en reconstruction. Mais c'est tellement un gardien atypique dans athlétique dans son style.
Flexible,
vif,
explosif.
Genre de grenouille plus vite que tout le monde, tu sais.
Ah, non, vraiment.
Non, vraiment. À l'époque, en plus, je me souviens, là, quand il a fait ses débuts dans le National, Jonathan Bernier était un espoir de haut niveau, puis Jonathan Quick a complètement, il est arrivé de nulle part, choix de troisième ronde, Bernier est un choix de première ronde, en tout cas, il est sorti de nulle part pour prendre le filet, puis il ne l'a jamais lâché, jusqu'à tout récemment.
Ah oui, ça a été pour moi le marquant, les deux conquêtes de la Coupe Stanley récente des Kings de Los Angeles, avec Jonathan Quick qui volait littéralement d'un poteau à l'autre, et hallucinant.
C'est un pilier de cette équipe-là au même niveau qu'Andy Kopitar puis Drew Doughty.
C'est surprenant la carrière qu'il a eue avec le background qu'il avait.
Ouais, exact.
Surtout la physionomie. C'est pas quelqu'un qui est un gros gardien de but.
Non, c'est un petit gardien 5 et 10.
Un petit gardien, devait être extrêmement en forme, extrêmement athlétique pour réussir à performer dans cette ligue-là. C'est extrêmement impressionnant.
Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, là. Même entre ces Coupes Stanley, là, je pense qu'il y a eu certaines saisons plus ordinaires, mais toujours spectaculaire. Toujours spectaculaire. Puis dans un gardien de but, là, c'est le fun, là, les Pécariné, les Henrik Lundqvist, les Carey Price, c'est correct. Puis en fond, des arrêts spectaculaires, on s'entend, là, on les a vus avec Carey Price, mais c'est pas aussi excitant que le gars qui est pas bien placé.
Ouais, non, c'est ça.
Puis qui fait juste se pitcher partout, là. Ça, c'est ouais, hot en maudit. Tu sais, tandis que quand la rondelle, là, je sais que pour des amateurs de technique, c'est tout aussi impressionnant quand la rondelle est toujours dans le chest. Mais
dans le toutou, comme on dit.
Direct, ouais. Mais non. Il y a quelque chose de particulier.
Et il n'y en a plus des gardiens comme
non,
ça.
Non, c'est ça.
Là, c'est plus ça du tout. Là.
C'est le dernier des scorpions. Ouais. Là, les arrêts, parce qu'il est accroupi vers en avant, puis il sort la balle à l'arrière. Là.
Ah, les nageurs.
Ah, veux-tu? Ouais, du crawl. Là.
C'est incroyable.
Ouais, exactement.
Hey, je pensais vraiment pas que quelqu'un aurait le même gardien.
Ben,
c'est
ça. Ben, je veux dire le mien d'abord. Là. Je ne serai pas le oui, mais je veux dire le mien. Mais Marc-André Fleury. Respect pour sa carrière,
total
respect pour sa carrière. Quand même fait plusieurs équipes.
Ouais, mine de rien.
Et a toujours réussi à gagner rapidement le respect.
Ouais.
Garder surtout les mêmes chiffres, même meilleurs des fois.
Ah ouais, avec Vegas, mettons.
C'est
ouais,
vraiment impressionnant. Mm-hmm. Parce qu'on aurait pu croire que bon, son équipe, les Pingouins, lui donnait plusieurs avantages au niveau des statistiques, ce qui est défendable, ce qui est vrai. Mais il a prouvé quand même le contraire en jouant à Vegas. Encore une fois, au Minnesota cette année, c'est pas la meilleure défensive. Je pense que Marc-André Fleury est une des raisons pourquoi l'équipe performe.
Puis il y a eu des difficultés, puis il était capable de se relancer pareil. Là. Non.
Ça, puis il a voulu se battre avec Binnington, donc chapeau.
Oui, ben oui.
Il y a ça. Il y a vraiment une drôle de carrière, Marc-André Fleury, quand même. Ça a commencé en finale de championnat junior où il y avait une bévue hors norme en dégageant sur le joueur qui mettait de l'échec avant. Tu sais, ça a vraiment...
Au championnat mondial junior en 2001.
En finale, ouais, ça fait un sacré bout.
Il a refait la même chose contre le Canadien.
Ouais, c'est sorti houleuse, c'est comme sa marque de commerce, un peu au même titre que Patrick Roy.
Ah, t'sais. Ça a jamais été sa force.
Non, vraiment pas! Puis, c'était un gars qui mettait de la moutarde sur tous ses hot dogs, là. Surtout avec les Pingouins, là, dans les années de misère des Pingouins, où on construisait le club, là. Fin le mieux, début Crosby, là. Mon Dieu, avec ses pattes jaunes, là, pis des arrêts, ouf! Il avait zéro besoin de mettre une aussi grosse motion sur son.
Rappelons-nous, mais... le premier show total.
Ouais,
au repêchage de 2001.
C'est le dernier gardien de but, je pense.
Le dernier gardien. 2000.
Robert De Niro, je sais pas.
Robert Tolongo?
Non, le gardien de but des Islanders qui a eu le contrat de 20 ans.
Rick DiPietro.
Rick DiPietro, bon, ouais. C'est ça le.
Robert.
Oui, Robert De Niro.
En 2003,
Rick DiPietro avait pas été repêché premier au total aussi.
Eh, hey, peut-être.
Mais je sais pas si c'est avant ou après. Fleury.
En tout cas, c'est un choix de première ronde, ça, c'est sûr.
Oui, ça, c'est sûr, c'est sûr.
Ouais, premier au total aussi, DiPietro, mais en 2000. Fait que c'était 3 ans avant Fleury.
Bon, OK. Ça fait que Fleury,
On était moins peu heureux de sélectionner des gardiens de but tout au repêchage. Là, ça.
Mais c'est passe plus pareil.
Même Price, là.
La science de l'évolution, l'évolution de la science du repêchage monte de plus en plus. Un peu de la même manière qu'au football, c'est les porteurs de ballon, là.
Ouais, ouais.
Que ça veut rien dire aussi que tu repêches plus souvent qu'autrement, puis c'est le gardien de but va se développer plus tard.
Parce que le dernier à avoir été repêché quand même haut, c'est Spencer Knight.
C'est vrai.
Avec les Panthers en Floride.
Top 15, ouais.
Il est sorti 11e.
Ah, c'est ça.
Ouais, mais ça sort plus haut parce que plus souvent qu'autrement, tu regardes les meilleurs gardiens de la ligue, il y en a le tiers qui sont pas repêchés, le tiers qui sont dans des rondes tardives, puis le tiers qui sont des choix de première, deuxième ronde.
Oui, effectivement.
Il n'y a aucune garantie. Là.
En ce moment, il y a Jake Oettinger qui est un choix de première ronde.
Oui.
Avec les
Stars.
Mais
non, mais il y en a, mais oui. C'est sûr.
Il y en a, mais plus dans le top 5.
Il y a le
Spencer Knight, c'est 13e. La même année que Cole Caulfield. Et, et il est présentement... Bon, il a des petits problèmes de santé, là, mental, consommation, c'est difficile.
Mm-hmm.
Donc,
mais c'est le gardien d'avenir encore
en
Floride.
C'est ça.
Mais
puis,
oui.
Tu regardes le dernier gardien qui a été repêché quand même tôt en première ronde, si je ne m'abuse pas, c'est peut-être le gardien... Le nom m'échappe, mais le gardien russe du côté des Prédateurs de Nashville.
Riné, tu veux dire?
Non,
russe. Saros, mais il est pas russe.
Non, il joue pas en ce moment.
Ah oui, Askarov.
Askarov.
Oui,
voilà, c'est ça.
Qui fait son service militaire, là, c'est compliqué.
Exact.
Ouais.
Lui a été repêché. Il y a Sébastien de Cossa qui est du côté des Sénateurs, si je m'abuse pas.
11e. Ouais, 11e au total pour Askarov.
C'est ça. Donc, c'est il y en a encore, là, puis ils vont être bons encore.
Oui.
Mais c'est. Faut que tu sois sûr en maudit ta shot pour aller le chercher en première ronde.
Exact. Comme le Lightning avec Vasilevski.
Oui, ça peut payer.
19e au total en 2012. On s'entend que...
Je pense pas qu'il regrette ce choix-là.
Coup de circuit, là. Ouais, effectivement.
Donc, à voir.
Effectivement.
Je vais poursuivre avec mes attaquants défenseurs du présent.
Parfait.
Je vais commencer avec mon défenseur du présent parce que c'est pas aussi excitant. J'ai longtemps été fan des Prédateurs. Quand
Francis Bouillon jouait là?
Non, ben quand Subban s'est rendu là, je trouvais j'ai commencé à aimer un peu les Prédateurs puis à suivre un peu ce qui se passait là. Et j'ai découvert comme s'il était pas connu, mais c'était dans le temps où il commençait à peine à s'établir comme un bon défenseur. C'est surtout le partenaire de chez Weber, plus qu'autre chose, comme on le connaissait. Il est devenu une super vedette dans la Ligue, Romagne aussi.
Ah ouais.
Je le trouve beau avoir allé l'équilibre dans le jeu offensif. L'an dernier, une saison absolument spectaculaire. Mais vraiment, j'aime beaucoup son jeu du côté de Romagne aussi. Mm-hmm. Il me semble complet. Là, dans les dernières années, il échappe peut-être un peu plus le côté défensif. Mais en général, super beau à voir.
Ben c'est difficile aussi de garder les stats défensives avec l'état de l'équipe à Nashville.
C'est sûr.
Il y a beaucoup plus de missions défensives. Ouais. Là,
que... Mais il continue à mettre dedans.
Oui, exact.
Son jeu a tellement évolué. T'sais, un peu, ça me fait penser dans le sens de Brad Marchand, où l'explosion offensive est venue quand même tard là, dans la carrière. Il montrait des statistiques offensives intéressantes, mais il n'y a personne qui allait se dire ce gars-là va se rapprocher d'un point par match défenseur. Puis c'est venu un peu de n'importe où. Pis...
Un choix de deuxième ronde quand même. Hein.
Ouais, oui, Romagne aussi, oui.
Non, c'est la pépinière à défenseur du côté des Prédateurs de Nashville aussi. Là.
Ouais, exact. Ça a été
les grandes années. Là.
Une sacrée belle lignée. Là. En plus, un joueur suisse, c'est un des meilleurs joueurs suisses de l'histoire, sinon le meilleur. Là, on se dit.
Exact. Attaquant, je pense que ça, c'est un petit peu plus spicy. C'est vraiment pas pour le joueur qu'il est maintenant, comprenez-moi bien. Mais Matt Duchesne. Que j'aimais Matt Duchesne avec l'Avalanche.
On n'est pas là d'un deuxième carton, là.
Arrêtez-moi.
Jaune-orange.
C'est un tacle par
Matt
derrière.
Matt Duchesne avec l'Avalanche.
Quand j'étais jeune, j'écoutais pas le hockey, que je jouais à NHL 2005-2006, j'adorais l'Avalanche. Je prenais, puis ça a été ça tout le long. Fait que j'avais jeune Matt Duchesne, plus vieux Matt Duchesne, dans toutes les NHLs que j'ai commencé à jouer quand j'ai commencé à apprendre pour l'Avalanche. C'était un de mes joueurs préférés. Et le voir jouer après aussi, j'adorais le voir jouer. Ce gars-là, je me rappellerai tout le temps quand je l'écoutais, là, quand il était avec l'Avalanche dans ses meilleures années. T'es derrière le filet adverse, puis un spinorama essaie d'aller quelque part, se passe rien. Un spinorama essaie de retourner quelque part, se passe rien. Un autre spinorama, puis ça arrêtait pas. Il était agile sur ses patins, il était dynamique. C'était vraiment un gars qui était le fun d'avoir joué. Puis c'était mes grands débuts comme fan de hockey un peu. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui aimait l'Avalanche à ce temps-là. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui aimait Matt Duchesne. Puis c'était comme mon affaire à moi. Là. C'était mon gars, Matt Duchesne.
Avant ses blessures aux chevilles, ce gars-là avait un des meilleurs coups de patin de la Ligue.
C'était
une super étoile. On se rappelle de Matt Duchesne avec les équipes olympiques et à la Coupe du Monde.
Team Canada, Matt Duchesne.
Tu parles de vitesse, là. Hey, NHL 2008-2009, tu passais à travers tout le monde.
Matt Duchesne avec les meilleurs au monde. Tu sais, dans le temps que les joueurs de NHL jouaient contre les meilleurs au monde.
On va en parler ça aussi.
Il avait l'air rapide contre les meilleurs au monde.
Oui.
Vraiment, sa vitesse, c'est...
Mais malheureusement, les blessures ont eu raison de ses habiletés physiques.
C'est vraiment pas le gars maintenant. Là. Je parle vraiment du gars dans ses belles années avec l'Avalanche. Mais vraiment, puis il joue encore, donc je me permets de le garder.
Est-ce que t'as un petit penchant pour les Preds? Est-ce que les Prédateurs de Nashville sont ton deuxième club préféré?
Non, du côté du Chêne, c'était vraiment pour ses années avec l'Avalanche. Il y a eu un moment où les Preds étaient mon deuxième club préféré. Puis tu sais, là, j'ai mis une petite note aussi là, parce que c'est mon côté fan, je trouvais ça plate de mettre ça comme réponse, mais je mentirais si je disais pas Cole Caulfield en ce moment là, dans la Ligue. C'est pas mal le joueur que j'adore regarder, puis je trippe à le voir aller. J'ai l'impression que chaque fois qu'il touche à la puck, il se passe de quoi.
C'est un choix légitime.
C'est le fun chaque fois qu'il touche à la puck. Ça veut pas dire qu'il va marquer, ça veut pas dire qu'il va peut-être juste dumper la puck, là, mais chaque fois qu'il touche... J'ai l'impression que le coup de patin explose, il est content, il est là. C'est, hey, let's go, là. Puis ça, ça fait du bien à voir pour quelqu'un qui a même pas ou à peine vu Kovalev jouer. C'est Subban puis lui, les joueurs dynamiques que j'ai vus chez le Canadien. Là. La liste, elle est très courte, là, en une dizaine d'années, mais c'est ça.
Pour mon joueur présent, je l'aime, mais je l'aime pas. Mais puis j'aime pas ça l'aimer. mais c'est Brad Marchand.
Non,
c'est correct. C'est un excellent joueur.
Parce que c'est un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale de hockey. Capable de mettre dedans, construire des jeux, dérange l'adversaire, physique, capable de se battre.
Comprend bien comment tricher.
Oui. Ben, Il est capable d'appliquer la game de hockey dans toutes les facettes possibles.
C'est un joueur foncièrement salaud.
Ah.
Oui. Comment tu peux aimer foncièrement? Si tu l'aimes pas, tu peux pas vraiment l'aimer, mais t'apprécies.
En fait, j'apprécie le QI de hockey de
ouais.
ce gars-là.
Ouais.
Qui est totalement au-dessus de tout le monde.
Ah oui, clairement.
Surtout sur. Compréhension, ouais. Pas juste la tactique, pas juste de comment faire avancer une rondelle en zone offensive, mais de comment jouer, comme dirait Martin Saint-Louis, la game dans la game. Tu sais, ouais. comment agencer son jeu à un type de match, parce que tu sais, j'ai l'impression qu'il est capable d'être performant dans un match plat 0-0 autant que dans une ruée offensive de 6-5.
Ouais. J'ai l'impression qu'il a ralenti un peu là. Après, je pense que les Bruins se ménagent pour les séries là, ces temps-ci là.
Manque d'émotion un peu chez les Bruins depuis le mois de janvier.
Depuis la qualification aussi, on s'entend que
c'est dur d'être bien motivé.
Ouais.
Ça a été stressant cette année là. En novembre, se sont qualifiés.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais là, ils ont ralenti un petit peu le trio à Pastrnak.
Défenseur.
Kel Makar. Mais je pense pas que vous avez besoin d'explication.
Non, c'est simple et efficace. Ouais. Là, ouais. C'est pas mal un. Si c'est pas le plus divertissant à voir aller. Là.
C'est avec McDavid, c'est le meilleur joueur de la NHL.
Oui. Ouais. Oui. Tout à fait. Et selon les pairs aussi, d'ailleurs, l'association des joueurs a voté la semaine dernière. Là, donc, Kel Makar a été nommé joueur le plus. Le défenseur le plus difficile à jouer contre. Ouais, le meilleur défenseur selon ses pairs. Donc, ouais. Quel joueur
du présent, Gab?
Hey, j'en ai plusieurs, puis j'en ai trop, pour vrai.
Le temps file.
Mais le temps file, ouais. Attaquant, je vais commencer avec un attaquant, Alexander Barkov.
Ah oh, oui, quel beau choix.
Sacha Barkov.
Ça, c'est un choix A1.
Ah, ce gars-là, là, s'il avait un moindrement bon coup de patin, là.
Hey, si ce gars-là jouait à Toronto,
ouais, aussi.
Ce serait une étoile. Ce serait une vedette dans le monde entier. J'exagère, mais il y aurait clairement le marketing qu'il mérite. Ah, là, en jouant à Sunrise en Floride, le joueur le plus sous-estimé de la NHL.
Puis c'est un joueur, on dit tout le temps ça de lui, il gagne le prix du côté des joueurs, des votes des joueurs. Puis c'est plus un joueur inconnu, là. C'est
non.
Les premières fois qu'il gagnait le joueur le plus sous-estimé, bon, il commençait à développer. Tout le monde le sait que c'est une vedette, là.
Mais non, c'est ça.
Mais personne n'en parle.
Mais malgré tout, c'est encore le joueur le plus estimé. Tu sais, parce que on comprend pas à quel point il est dominant. Là. C'est hallucinant ce qu'il fait.
C'est vraiment, vraiment hot. Puis
je pense bon qu'Huberdeau pourrait t'en parler une petite demi-heure ou deux.
Ah, s'ennuie, Huberdeau, là. Mon Seigneur. Dieu. Puis on réalise que là, maintenant, avec justement, il a perdu Huberdeau, on le remplace par Mathieu Tkachuk. Puis Mathieu Tkachuk est devenu joueur d'un point par match. C'est ça, exactement. C'est un hybride entre Evgeny Malkin puis Patrice Bergeron.
Un puissant coup de patin.
Fort,
des cuisses grosses comme un tronc d'arbre.
Ah, quel joueur. Je l'adore. À la défense, j'en ai plusieurs encore, mais c'est vraiment difficile. J'ai le goût de prendre Rasmus Dahlin en ce moment.
OK.
Ouais. Surtout, en tout cas, l'année passée aussi, là, depuis quand ils ont liquidé leur club, là, Taylor Hall, ça n'a pas marché. On dirait que Rasmus Dahlin a pris l'équipe sur ses épaules l'an dernier. Puis depuis, ben, ça fonctionne.
C'est
déjà né
sur la glace aussi.
C'est déjà né, ouais.
Tu passes un petit peu plus de messages en avant du filet. Ouais. Il est plus impliqué physiquement aussi.
C'est puis encore là, un coup de patin sublime.
Et j'aurais aimé ça le voir en série, là, chose ouais, qui n'arrivera pas finalement.
Aussi, j'aurais aimé ça.
La jeune défensive des Sabres, Owen Power, Rasmus Dahlin.
Ouais, c'est comme joli. Ça va être joli tantôt.
Mettons, question pour toi, tu prends eux ou Lane Hudson?
Lane Hudson!
Les deux!
Lane Hudson, every day, all day! Ah non, je évidemment, il faut être réaliste. Là. Tant qu'il n'a rien montré, je dirais Rasmus Dahlin. Mais je suis convaincu que Lane Hudson va être une superstar dans la Ligue nationale de hockey.
Je
le pensais déjà un peu quand on l'a repêché. Je considérais que c'était un des dark horse du draft avant qu'on le repêche. Je priais que ça arrive. J'espérais en fin de première ronde, en début de deuxième ronde. Je pensais jamais qu'il se rendrait à la fin de la deuxième ronde. Fait que là, maintenant, en plus, avec sa saison qu'il y a, je suis désolé, mais quel joueur.
Il joue le Frozen Four en ce moment?
Oui, il a marqué le premier but du premier match du tournoi du hockey universitaire américain. On espère qu'Harvard se fasse éliminer rapidement.
Ouais, entre autres pour avoir un certain Sean Farrell.
Ouais, j'ai le goût de le voir au moins quelques matchs avec le Canadien. Là.
Voilà. Allons en pause publicitaire si vous le voulez bien, les garçons. Au retour, on parle de baseball et de basket à conduite antisportive.
case I need to know. Yeah. Motherfuckers on the side, on reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Passe d'abord, c'est bien fait. Le tir est le but!
Les Remparts de Québec reçoivent l'Océanique de Rimouski dans le cadre d'une série aller-retour ce vendredi 24 mars à 19h. Rejoignez Ray Cloutier sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts Océanique, vendredi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonsoir, chérie!
Bonsoir!
J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
Ah, chérie, j'arrive! Ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie, j'arrive!
Slowly dying. Fascist.
vous écoutez toujours Conduite Antisportive sur les ondes de Schiz 94.3. Amorçons, si vous le voulez bien, les garçons, notre segment basketball. Parce que c'est la folie du mois de mars en ce moment.
La deuxième semaine, la folie du mois de mars. Déjà, on est rendu au Sweet 16, le 16 sucré.
Le 16 doux. C'est déjà confirmé, si vous le saviez pas. Il n'y a plus aucun bracket parfait sur la planète.
Oui, non, c'est ça.
Ça n'existe plus.
C'est
quand même fou.
C'est hallucinant. Les chances d'avoir un bracket parfait sont quasiment nulles. Si on connaît le basketball un peu, c'est une chance sur 20 milliards. Et si on fait juste lancer une pièce de monnaie dans les airs à pile ou face, c'est une chance sur 9 quintillions.
La meilleure métaphore pour illustrer à quel point, parce que là, évidemment, comme tu l'as dit, en tirant pile ou face, là, quand tu sais que c'est arrivé juste une fois avant ce tournoi-là, une 16e seed qui gagne, bon, ben, tu peux prendre certains matchs faciles, etc. Mais la meilleure métaphore là, pour, comme tu l'as dit, les quintillions, là. Mm-hmm. Si Gab, là, je te dis, OK, va-t'en où tu veux dans le monde, prends-moi un grain de sable, marque-le là, au crayon à l'encre noire, j'ai plus de chances de trouver ton grain de sable au hasard en pigeant dans le sable du monde entier que de remplir un bracket parfait.
Ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça. Donc, à un certain moment, là, c'est assez clair. Là. Est-ce que c'est déjà arrivé quelqu'un qui gagne le bracket parfait de la NCAA? Je pense pas, mais c'est impossible. Là.
Ça me ferait les compagnies qui font les concours. 1 million!
Ah oui!
Ça fait le bracket parfait.
Bravo!
PDG doit être stressé. Donc oui, on est rendu à la deuxième semaine, la fameuse troisième ronde, le Sweet 16.
Effectivement.
Il y a des affrontements vraiment intéressants et on a un 15e qui est encore en vie en Princeton.
Qui est l'équipe Cendrillon.
Oui.
Contre toute attente.
Qui affronte Creighton, qui est une bonne équipe de basket, mais pas extraordinaire.
Ouais, non.
Donc Princeton a quand même des bonnes chances de se rendre au Elite 8.
Ce serait hallucinant.
Ce qui serait complètement hallucinant. Sauf que là, ce serait difficile. Ce serait certainement contre Alabama.
Puis tu sais, comprenons-nous bien, le Princeton, c'est pas une école qui a besoin d'argent, mais. C'est important de préciser au monde parce que des fois on se dit OK ben c'est cool pour eux tant mieux ben voilà puis c'est tout. Il y a quelque chose de tellement majeur pour beaucoup de programmes à réussir à avoir une année comme ça où tu réussis à te rendre loin dans la NCAA, ça peut changer complètement ton programme parce que tu prends une part de plus en plus importante des revenus de ce tournoi-là pour chaque match dans lequel tu joues. Donc, il y a des programmes, là. C'est Purdue, là, la 16e seed qui a gagné son match.
Furman, c'était contre Virginie,
Qui, eux, juste d'être dans un match, ça change déjà leur programme.
Ah,
c'est 300 000 $ je pense, pour un match. Là.
Puis ils ont gagné par un.
Ils ont gagné par un, ça change leur programme. Ouais. Puis ils ont gagné, fait qu'ils ont joué un deuxième match. Eux, là, c'est une équipe qui, soudainement, pour les 4-5 prochaines années, a beaucoup de chances de réussir à sortir de ses conférences, à peut-être participer une ou deux fois de plus dans le tournoi de la NCAA. Puis c'est comme ça que tu développes des équipes qui, jour au lendemain, deviennent bonnes.
Pour expliquer aux gens à la maison qui ne le sauraient peut-être pas, les universités donnent des bourses d'études, entre autres, qui sont accompagnées d'un prix, évidemment, souvent élevé aux États-Unis. Là, on parle entre 30 et 50 000 $ pour une année. Ouais. Alors, ça leur permet justement d'avoir plus d'argent pour donner des bourses d'études, peut-être avoir un meilleur gym, des meilleures installations. Ouais. Bon, c'est quelque chose qui est non négligeable. Un meilleur coach. Ouais. Parce que les coachs à la NCAA, plusieurs gagnent plus que des coachs à la NBA.
Oui, clairement. Donc, c'est vraiment, vraiment incroyable de voir une équipe comme ça parce que tu te dis, c'est une équipe qui, soudainement, on pourrait la revoir dans pas très, très longtemps.
Puis Princeton n'est pas réputé pour son sport. C'est une université réputée pour ses qualités académiques, là, pour le programme d'or, entre autres. Là. C'est une des plus réputées au même titre que Yale, Harvard, Stanford. C'est quand même fascinant de voir cette équipe-là.
Mais tu sais, eux n'ont pas besoin d'argent, nécessairement. C'est juste qu'ils n'investissent pas nécessairement particulièrement là. Pas mais reste basket, que... des universités pleines
d'un ça permet au programme de s'autofinancer du moins.
Ouais, exactement.
C'est des belles histoires qu'on a pour cette prochaine ronde, mais on a aussi encore des favoris qui sont là. Hein. On a parlé d'Alabama, UCLA contre Gonzaga, le 2 contre le 3.
UCLA.
Oh, ça va être un gros match.
C'est ce soir, match-là.
Ouais,
je vous invite à le regarder.
Ouais.
Gonzaga était l'université classée troisième, la plus sélectionnée pour gagner le tournoi là, dans les brackets cette année.
C'était mon choix d'ailleurs.
Boum.
Ouais, mais t'as pris Kansas, hein? Rappelons. Non. Ah, Alex, non, ils sont éliminés.
Non. Je n'irai pas faire semblant, j'ai pas rempli mon bracket.
Ah, dommage.
Mais vous pouvez.
Il a dit mot pour mot, je m'en fous, les gars, j'ai pas envie de faire ça avec vous.
C'est ça, carton jaune pour mensonge. Merci, bonsoir.
Pour simulation.
Hey, j'étais là, je suis comme, voyons, j'ai pas dit ça, j'en reviens pas. J'y croyais presque, honnêtement.
Hey, il a cru à son mensonge.
Il a cru à ça, j'étais comme, ben là, pourquoi vous me gardez ici? Qu'est-ce que vous avez fait?
Sinon, ouais, aux douches.
Mais non, ce que je voulais dire, c'est que mon pic aurait probablement été, pour une raison absolument niaiseuse que je vais vous évaluer tout de suite, là, ça aurait été UCLA. Pour la simple et bonne raison que dans mon premier My Career de NBA 2K, ils te demandaient de choisir ton université, puis j'ai choisi UCLA.
Les Bears.
UCLA Bruins.
Les Bruins, c'est pas les Bears, ouais. Les Bruins.
UCLA. Fight.
J'aime pas leur couleur.
Ah, je les aime, moi.
Ah, moi, j'aime bien. Puis là, les balls étaient allés là, puis j'étais comme, oh, allez, balls.
Sinon, un autre match intéressant demain à 9h45. Xavier, le troisième contre Texas.
Ouais.
Texas sont équipés pour aller loin aussi. Ça va être un autre bon match que je vous invite à regarder. Après ça, il va rester une autre fin de semaine.
L'autre bord aussi, Arkansas contre UConn, Connecticut, ouais. Les Huskies qui sont toujours excellents. Il y a Tennessee aussi qui est en vie, l'autre bord. En tout cas, c'est difficile. Il reste encore d'excellentes équipes, là, mais quand même. Plusieurs grosses équipes, grosses universités sont
tombées
au combat.
Plusieurs surprises cette année.
Ouais, quand même. Miami qui bat Indiana, entre autres. Là,
c'est vrai qu'on n'a pas ça souvent dans le March Madness des surprises.
Il n'y a jamais de surprise.
Mais en première ronde, il y en a quand même eu beaucoup.
Ben, il y en a toujours beaucoup. Mais oui, il y en a toujours beaucoup, mais tu sais. Du March Madness.
Ouais. En tout cas.
Je vois beaucoup, puis je fais aucun pari sportif dans la vie. Mais je vois beaucoup ça passer sur mes réseaux sociaux. Ça m'intéresse, je suis ça. Puis il y a beaucoup de monde qui ont comme stratégie de parier, tu sais, c'est un 100$ sur chaque match. Puis tu paries toujours sur le underdog.
Ah ouais.
Puis apparemment qu'au March Madness, ceci n'est pas un conseil financier. Au March Madness, c'est plus souvent qu'autrement payant.
C'est-tu là que j'arrête de prendre des notes ou.
Au March Madness, on t'a vraiment pas écouté.
Au March Madness, de parier toujours sur le underdog,
ouais.
Au final, tu gagnes.
Okay.
Même si je dis tu gagneras pas le trois quarts de tes paris. Dans les dernières années, plus souvent qu'autrement, ça amène à gagner.
C'est assez logique, considérant le fait que... bon,
il y a des 16e et 15e avec
qui donnent des 20 cotes là, si l'équipe le remporte.
Puis selon les divisions, on s'entend que ton rang, ça vaut ce que ça vaut. Là. Tu peux être 4e du Big Ten, ça c'est vraiment très fort, mais le premier d'une autre division plus faible est moins fort que le 4e du Big Ten.
Tu regardes du côté de Princeton, t'as parié deux fois sur Princeton, 100$, t'as fait des gros gains, là. Ça compense pour beaucoup de pertes. Là.
Ouais.
C'est un peu ça le principe de la stratégie. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier.
Merci.
Pierre-Yves McSween, très fier de moi.
Bonjour.
Pierre-Yves Princeton.
J'avais pris ça pour du cash, je vois juste.
Les notes au vidange.
Enfin, juste de dire, je veux pas mon deuxième carton jaune, je suis proche d'expulsion. Là.
Qu'est-ce qui est le plus surprenant, des upsets au March Madness ou de voir la réaction des fans japonais à la classique mondiale de baseball?
Le Tokyo Dome, là, l'arène. Oh mon Dieu, c'est hallucinant.
Les matchs qui ont lieu en Asie ont été tout simplement incroyables.
Wow.
C'est impressionnant de voir la foule investie dans les matchs. Il y a eu des matchs à Taïwan.
Oui, aussi.
Tu voyais à quel point c'était important pour les gens. Ils étaient investis. Bon, ça chantait tout le match. Un petit peu une ambiance de soccer européen là.
Ouais.
C'était vraiment impressionnant. Je pense que ça nous a tous rapproché un peu du baseball en ce printemps qui s'en vient, en cette belle journée enneigée.
Moi qui n'en écoute aucunement là. Sans avoir regardé les matchs là, je regardais ce qui suivait, je suivais ce qui se passait, j'ai regardé à multiples reprises le fameux échange en fin de match entre Trout et Otani.
Ouais.
Je veux dire, ça a marqué même pour du monde qui s'en fout. Là.
Exactement. Ça permet aussi à des pays bon, qui n'ont pas vraiment de ligue professionnelle ou ne se sentent pas concernés par le baseball bon, de se rapprocher du sport. On parle à l'Italie, la Grande-Bretagne qui était qualifiée.
La République tchèque était là avec des joueurs semi-pro. Mm. Il y avait tous d'autres emplois, eux autres-là. Il y a un architecte qui a retiré sur des prises Shohei Ohtani. Un architecte.
Ça va t'en rappeler longtemps.
En tout cas, fascinant.
Tani a vraiment été cool avec ce joueur-là. Échanger un gilet signé par tous les joueurs d'équipe japonaise.
Après ça, t'imagines-tu retourner au bureau après et dire, hey, les gars.
Je l'ai mis dans ma petite poche.
D'après moi, tu t'es sur un petit nuage une couple de semaines, voire mois après. Là.
Oh, d'après moi, c'est le genre d'histoire que tu comptes à 65 ans encore, moi. J'ai retiré Shohei Ohtani.
T'as le droit de le raconter à chaque Noël pour les 50 prochaines années.
Ah, oh, c'est sûr.
Mais oui, il y avait des clubs comme la Grande-Bretagne qui étaient là, l'Australie aussi, et, qui ont eu quand même... Ben, l'Australie a un beau parcours. La Grande-Bretagne se sont fait plier d'en face. Mais l'Italie avait un bon club.
Il y a plusieurs italo-américains
qui ont décidé
d'utiliser leur deuxième nationalité pour représenter l'Italie.
Même un certain Canadien, Jordan Romano, le lanceur de relève des Blue Jays, qui a décidé de jouer pour l'Italie au lieu du Canada. Décevant.
Oui, décevant. Ouais. Par contre, on a eu Freddie Freeman, qui est un Américain né aux États-Unis, mais sa mère était canadienne. Pour honorer sa défunte maman, a décidé de porter l'uniforme du Canada.
Freddie Freeman est le meilleur joueur de premier but de la ligue.
Je l'ai vu aller un peu. Là. Je sais qu'on a quand même eu un parcours relativement intéressant, mais comment analyseriez-vous le parcours du Canada?
Ben, le match contre la Grande-Bretagne, justement, on peut pas vraiment le juger parce que la Grande-Bretagne n'avait pas un club,
compétitif.
Ouais, pas du tout compétitif, en fait.
Le problème, c'est les lanceurs, en fait, là. Après le lanceur capable de donner une bonne performance, bon, il y avait plus vraiment de personnel de lanceur pour tenir un match. Les lanceurs étaient limités à un certain nombre de lancers aussi.
OK.
Parce que les matchs sont collés. Donc, tu dois respecter un nombre de lancers X pour pouvoir lancer le lendemain et ainsi de suite.
Donc, le lanceur en question, c'était Cal Quantrill des Guardians de Cleveland, qui était vraiment excellent dans ce format-là, dans ce tournoi-là. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'appui. Puis même au bâton, tu sais, il y avait beaucoup de joueurs éligibles qui ont décidé de ne pas jouer ce tournoi-là parce que c'est le camp d'entraînement, la saison commence. Puis il y a eu des blessures importantes dans le tournoi, là, José Altuve, entre autres. Qui est blessé pour presque...
Le lanceur des Mets de New York aussi pour Puerto Rico.
Edwin Diaz, le meilleur releveur de la Ligue, en tout cas, en fin de match. Donc, c'est ça, c'était comme délicat de faire jouer nos meilleurs joueurs.
Ben, ces compétitions-là sont toujours délicates. La Coupe du monde de soccer... la même chose. J'imagine que si les joueurs de la Ligue nationale de hockey vont jouer dans une peut-être prochaine Coupe du monde... Ou
des Jeux olympiques.
Peu importe, il y a toujours des blessures. Ça reste des vrais matchs. En plus, ça reste des matchs émotifs où les joueurs vont un petit peu plus loin
c'est pas un match des étoiles. Là.
Exactement.
Mais pour en revenir au Canada, on a quand même battu la Colombie, qui était une force quand même. Une bonne équipe de balles. Donc ça fut une vraiment belle victoire. Par contre, le Mexique nous a ramenés sur terre.
Le match a été serré longtemps. Par contre, je pense que le personnel de lanceur, justement, pour le Canada, a manqué un peu en fin de match.
Ouais.
Comme notre cher Gabriel le disait, il y a quand même beaucoup de joueurs canadiens qui ont décidé de ne pas y aller. Et dans le cas du Canada, comme il n'y a pas beaucoup de profondeur, ça aurait été important d'avoir ces joueurs-là dans l'alignement.
On a fait jouer de bons prospects, de très bons jeunes. Bo Naylor, entre autres, le receveur qui sera...
Va être excellent. Otto Lopez a monté des belles choses.
Ah ouais, j'ai hâte.
Le Québécois, qui est espoir qui est le meilleur espoir des Twins... était vraiment
son nom Charles
Édouard Julien a démontré toute sa puissance, était vraiment bon durant le tournoi. J'ai l'impression qu'il va avoir une belle carrière dans les ligues majeures également. Donc c'est toujours des belles histoires qu'on découvre dans la classique mondiale de baseball en espérant que la Ligue nationale de hockey peut emboîter le pas. Arrêter de courir après le dollar et seulement organiser une rencontre pour le bien
David
du sport.
En a parlé lui-même en entrevue. Il a dit, regardez ça, c'est pas compliqué, le moment où t'as Mike Trout perd par un point.
Dernier retrait du match
contre Shohei Ohtani.
Contre son coéquipier.
mais surtout deux des meilleurs joueurs au monde.
Des talents générationnels.
Tu peux pas t'empêcher de mettre des yeux sur le match des gens. Tout le monde va être là. C'est ça que tu veux. C'est comme l'a dit McDavid, permettez-moi l'anglicisme, là, best on best. C'est ça que tu veux. Tu veux les meilleurs contre les meilleurs. C'est hallucinant de penser au fait que McDavid, depuis sa carrière junior, n'a jamais endossé le chandail du Canada.
C'est hallucinant. C'est une perte pour l'amateur de hockey.
Tout à fait. C'est une perte
marketing pour le hockey en général.
Tu sais, je veux dire, un vrai, puis je dis pas nécessairement que c'est lui, là, c'est discutable, mais un vrai Austin Matthews contre Connor McDavid, pas avec des équipes qui peuvent être déficientes à un certain moment d'un bord ou de l'autre là.
Ouais, puis
vraiment un Canada-États-Unis mise en jeu, c'est en prolongation, en finale, médaille d'or.
On a ce sentiment-là durant le championnat mondial junior.
Ben oui.
Mais oui.
Imagine. Imagine les meilleurs contre les meilleurs.
Austin Matthews contre Connor McDavid en prolongation, mise en jeu, let's go, c'est parti. Who's the best? C'est ça.
Il n'y a pas de perdant, il y a sport. Juste des gagnants.
T'sais, tu veux revoir Ovechkin Crosby une dernière fois, là, oui. Aussi, tu sais.
Ben, Ovechkin, ça risque d'être un enjeu un petit peu plus, malheureusement. Mais
malheureusement, la Russie en général.
Mais malheureusement, la Ligue nationale est beaucoup utilisateur-payeur.
Ben oui.
Donc, moi, je n'ai pas le contrôle, je ne suis pas payé, donc je n'enverrai pas mes joueurs. Pourtant, l'analyse doit être beaucoup plus globale.
Si tu veux faire grandir le sport, c'est pas juste la LNH qu'il faut que tu promouvoies, c'est du sport en général.
Exactement.
C'est là que tu vas ramasser des pays qui participent plus, donc plus de talents qui arrivent, donc plus d'yeux, de plus d'endroits dans le monde. C'est probablement un des sports avec le soccer, c'est bizarre, mais le plus international.
Ouais.
Oui, clairement, clairement.
Plus que le football américain, très certainement.
Tout à fait, tout à fait.
Tu sais, autant sinon plus que le baseball.
T'sais, là, le baseball nous a prouvé justement avec la classique
qu'il y en a.
Il y a des fans de partout dans le monde, là. C'est vraiment trippant. Mais oui, c'est pas au même niveau que le foot, certainement.
Non, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à développer. Il y a tellement de pays nordiques, il y a tellement d'intérêts, mais maudit, vends-les ton sport.
Et pas peur de le vendre. Les gens vont l'aimer. C'est un beau sport, le hockey. Les gens vont l'apprécier, vont l'adopter. Mais pour résumer aux gens quand même, le Japon a remporté, on l'avait pas dit, mais
oui, quand même.
Le Japon a remporté le match contre les Américains, là. Justement, Shohei Ohtani est venu clore le match avec des rapides à 102 000 à l'heure.
Pour terminer avec la slider à 80.
J'ai regardé ça en direct, là, c'était du bonbon.
Shohei Ohtani a la balle à frapper avec le plus de vélocité et la balle lancée avec le plus de vélocité dans le tournoi. 116 exit velo.
On apprécie pas assez le talent qu'on a devant les yeux. On verra pas ça après. Là.
Non, il n'y en aura plus.
Qui a le temps de se pratiquer autant au bâton et de lancer un bullpen de préparation en vue de son départ dans la même semaine?
Mais tu vois, avant que Shohei Ohtani arrive, on pensait pas que ça allait arriver.
Il y a des joueurs qui l'ont fait historiquement, mais à ce niveau-là, jamais.
Plusieurs joueurs qui l'ont fait dans les années 10, 20, 30 parce que, c'était pas aussi technique.
Et même Babe Ruth le faisait.
C'est ça, mais il comprend. En même temps, Connor McDavid, sa saison actuelle, là, presque 2 points par match, on pensait pas revoir ça de notre vivant, là, presque 2 points par match.
L'affaire, c'est que Shohei Ohtani, c'est comme si Connor McDavid, là, une game sur deux, il goalait.
Oui, non, je comprends, c'est tout à fait différent.
mais c'est ça.
Tu sais, chaque fois qu'on pense, un moment donné, il faut peut-être arrêter de croire que ça arrivera jamais. Ovechkin était à peu près l'équivalent d'une saison et demie, 2 saisons de battre le record de buts de Gretzky. Il y a toujours quelqu'un quelque part un moment donné.
Un phénomène, quelqu'un qui va amener le sport à un autre niveau.
Ben oui.
C'est exactement ce que Shohei Ohtani fait.
Ouais,
c'est juste plate qu'il le fasse avec les Angels.
On gaspille un talent.
Oui.
Je vous termine là-dessus en vitesse. Il me semble que si t'as Mike Trout et Shohei Ohtani, tu devrais être une bonne équipe.
Non. Mais ils sont pas entourés. Il y a juste.
Pas de lanceur. À part Ohtani, il n'y a pas de lanceur là. Il n'y a pas de releveur.
Dégueulasse l'enclos de cette équipe-là.
Après Mike Trout et Shohei Ohtani dans le line-up.
Ouf. Taylor Ward.
Personne capable de frapper son poids.
Anthony Rendon, tout le temps blessé. C'est une équipe qui s'en va encore dans les bas-fonds.
C'est triste.
Oui, vraiment.
Bon.
C'est triste parce qu'avec les talents qu'ils ont sous la main, ils ont pas cru bon d'investir un petit peu plus.
C'est ça. Michel Truitt. C'est triste, là, Michel. Ça fait 10 ans qu'il est là, avec les Angels.
Michel Truitt.
Mike Trout, Michel Truitt. Et c'est le deuxième carton jaune.
Ah, ça y est, bye-bye, je m'en vais, je suis Chicoutimi.
Bye-bye, carton rouge.
OK.
Carton rouge, aux douches. Hey,
malgré tout, merci d'avoir été là, les gars, pour Conduite Antisportive. On se revoit peut-être la semaine prochaine.
Peut-être
jeudi prochain. Bonne fin de semaine, tout le monde.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'allonger seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Et au Québec, c'est Thierry Larose.
Tout devient tellement précieux quand
mon nouvel album Sprint est maintenant disponible en magasin et sur